On a commencé il y a deux dimanches à parler des choses vraiment importantes dans la vie. L'apôtre Paul disait « Maintenant donc, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Il ajoute « Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Et on a vu déjà, on a parlé de la foi à Noël, la foi qui avait manqué à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui allait annoncer la venue de Jésus, le Messie, dont on a chanté la venue déjà sur plusieurs aspects. Et puis on avait vu aussi l'espérance. L'espérance, c'était, on l'avait regardé à travers les yeux et l'espoir qu'avait cet homme que l'on a chanté, qui s'appelle
Siméon.
Pas Simon, mais Siméon. Et qui était apparemment un homme à qui Dieu avait promis qu'il verrait le Messie de ses yeux avant de mourir. Et pour lui, c'était quelque chose qui l'aidait à vivre. Il savait que tant qu'il ne voyait pas ce Messie, il ne pourrait pas partir. Mais qu'une fois qu'il l'aurait vu, il aurait vu le salut du monde. Et aujourd'hui, on va parler brièvement de la troisième chose qui est la plus importante après la foi, l'espérance. On va parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu d'être quelqu'un qui aime. Parce que la Bible nous dit, Dieu est amour. Il est la définition de l'amour. Et on va se tourner pour en parler à ce chapitre de Jean 3. Et on va parler, c'est toujours un défi, on va essayer de parler de Jean 3, 16. Il y a près de 31 000 versets dans la Bible, un peu plus de 31 000 suivant les versions et les façons dont les versets sont numérotés. Mais 31 000 versets, ça en fait. C'est pour ça que ça prend au moins toute une année à lire, un petit peu chaque jour. On peut la lire beaucoup plus rapidement, mais la Bible nous parle, Dieu nous parle. Et Dieu veut nous donner des informations très importantes, et en même temps, ce qui est formidable, c'est que ces informations, elles constituent une bonne nouvelle. C'est quelque chose de formidable à découvrir, quelque chose de formidable à accepter et à recevoir. Et parmi ces 31 000 versets, si on devait en choisir un seul, qui résume les 31 000 autres, c'est le verset dont on va parler ce soir. Donc c'est un peu en tremblant que je m'aventure pour commenter ce verset qui a le mérite de vraiment résumer l'épopée de la Bible. Il y a plusieurs intrigues dans la Bible, mais imaginez que vous vouliez lire Victor Hugo, Les Misérables, et que vous commenciez par lire un chapitre un peu au hasard, La fuite de Jean Valjean, quand Jean Valjean vole les cierges à l'évêque de cette ville de province, pas loin d'ici, à Barème. Imaginez qu'à partir de ce verse, de ce petit passage, on vous demande de résumer Les Misérables. Vous seriez bien embêté. Il est toujours important de remettre, et surtout c'est vrai quand on parle de la Bible, tout dans le contexte de la Bible. Et ce contexte, il est résumé, c'est du TNT, c'est très dense, dans ce verset qui s'appelle Jean, qui est le numéro de Jean 3, 16, que vous avez probablement déjà entendu. Si vous êtes un croyant et que vous avez appris des versets par cœur, il y a des chances que vous l'ayez mémorisé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très court. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand est-ce qu'il a donné son Fils? Il l'a donné dans sa décision, dans l'intimité de la divinité qui était constituée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de toute éternité, on peut l'imaginer, mais il l'a donné en cadeau lorsque Jésus-Christ est né. Il est venu s'incarner, se mettre un costume de chair, un costume d'homme, pour nous montrer, pour nous apprendre comment Dieu veut que nous vivions. Et donc ce verset de Jean 3,16, il est intéressant de noter que vous savez peut-être qu'il y a quatre évangiles dans la Bible qui sont des descriptions de la vie de Jésus-Christ. Mais ils ont tous un style un peu différent. Il y en a un peu à la façon dont on commente les sports. Il peut y avoir des descriptions qui analysent toutes les actions, qui donnent des détails, qui donnent des statistiques sur les joueurs. Et puis il y en a d'autres qui peuvent simplement faire un résumé plutôt rapide et grossier. D'autres qui vont essayer de voir la philosophie qui se manifeste par la façon dont des gens se consacrent à des sports pour une gloire éphémère. Il y a des façons différentes de commenter les mêmes événements. Et c'est pareil pour la Bible, avec ces quatre évangiles. Il y a l'évangile de Matthieu. Matthieu et Luc, ce sont les plus détaillés. Ils donnent beaucoup d'informations. Matthieu, lui, il a un arrière-plan juif et il s'adresse à des auditeurs, à des lecteurs juifs. Il fait beaucoup de références à l'Ancien Testament, aux anciennes écritures du peuple juif. Luc, lui, c'est plus tourné vers ce qu'on appelait les païens. À l'époque, dans la Bible, on parlait de deux groupes. Il y avait ceux qui croyaient en Dieu et ceux qui n'y croyaient pas, ou ceux qui croyaient à d'autres dieux, à des idoles. Ceux qui croyaient en Dieu, c'était le peuple juif. Ceux qui n'y croyaient pas, c'était les païens. Donc, ça n'a rien d'insultant. Comme aujourd'hui, on peut dire que c'est un païen pour dire que c'est un bon à rien. Non, il y a quelque temps, on pouvait dire ça. Maintenant, ça ne veut plus rien dire. Mais il y a ces deux évangiles. Et puis, il y a Marc. Marc, c'est l'évangile de France Info. Il donne des petites descriptions et il est toujours à suivre l'action. Et il dit immédiatement après cela, voilà ce qui s'est passé. Immédiatement après cela, voilà ce qui s'est passé. Jean, lui, c'est celui qui prend de la hauteur. Pendant le Tour de France, c'est celui qui est dans l'hélicoptère de France 2 et qui vous donne des commentaires sur la région, sur les châteaux, sur les coureurs aussi, mais il a du recul. Il n'est pas juste le nez dans le guidon, pour ainsi dire, et en train de décrire coup par coup ce qui se passe. Et Jean, il nous répète, voilà, il nous donne tout le sens de la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est, dans ce court verset, on voit l'objet d'abord de l'amour de Dieu. C'est le monde. Le monde, c'était tous ceux qui n'étaient pas juifs et les juifs. C'était toute l'humanité. Et ça, c'était une révélation pour le peuple juif. Le peuple juif pensait que Dieu les aimait spécialement, qu'il les aimait au-dessus du reste du monde. Dieu aime les juifs, mais il aime tous les hommes. Il est mort pour tous les hommes. Il est venu, Dieu a tant aimé le monde. On voit aussi la portée de cet amour, l'ampleur de cet amour. Il n'a pas un peu aimé les hommes, il les a tant aimés. Il a tant aimé le monde. Et quand on aime quelque chose tant, ça veut dire que c'est énorme. Il les a tant aimés, c'est pas qu'un peu. Ce verset, entre parenthèses, c'est quelque chose que vous devez, si vous voulez parler de Dieu à votre entourage, à ceux qui ne connaissent pas encore le merveilleux Sauveur qui est Jésus-Christ, c'est quelque chose que vous pouvez mémoriser et que vous pouvez déclarer avec vos propres mots. Parce que si vous le récitez, c'est bien de le savoir, mais si vous récitez « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point », les gens vont dire que ça veut dire « périsse ». Non, vous pouvez dire « Dieu, il aime Il t'aime tellement, parce qu'à la place du monde, vous pouvez mettre votre prénom. Dieu a tant aimé Jérôme, Dieu a tant aimé James, Dieu a tant aimé Sharon, Dieu a tant aimé Pierre. Vous pouvez, c'est tout le monde, la portée. Et puis, le mot qui est utilisé, qui est traduit par amour, Dieu a tant aimé, le verbe aimer. En fait, dans la langue originale, en grec, il y avait essentiellement quatre mots qui pouvaient être traduits en français par aimer. Il y avait d'abord le mot de storgé ou storgé, qui veut dire l'amour que l'on a les uns pour les autres dans une famille. C'est un amour naturel. Et lorsque les gens n'ont pas cet amour, on pense que ce sont des psychopathes. Vous êtes censé aimer vos frères. Il y a quatre frères là qui m'ont dit que c'est pas toujours facile de s'aimer, mais je sais qu'ils s'aiment beaucoup. C'est l'amour naturel qu'on a dans une famille. Et eux pour leurs parents pour eux, leurs parents entre eux, c'est l'amour naturel. C'est l'amour dont il est question dans la Bible, seulement pour noter que lorsque les hommes s'éloignent de Dieu, ils n'ont même plus cet amour. Et on voit des choses terribles dans les nouvelles, on voit des parents qui tuent leurs enfants, mais c'est pas des choses sur lesquelles on veut s'apesantir ce soir. L'autre notion d'amour qui a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est l'amour d'Hollywood. C'est le mot Eros. Alors même si vous n'avez pas fait de grec, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du mot Eros ou du mot érotique, qui parle de l'amour physique, de l'amour charnel. C'est un mot dont il n'est pas question, qui n'est pas cité dans la Bible telle qu'elle, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'amour physique n'est pas quelque chose de très beau, du moment que c'est pratiqué ou que c'est vécu dans le cadre du mariage. Le sexe, ce n'est pas une invention du diable, le sexe, c'est une invention de Dieu. Et c'est une très belle chose lorsqu'elle est faite dans le cadre que Dieu a prévu pour cela, celui de du couple marié devant Dieu, qui donne naissance à une famille et qui est la base de la société. On voit aujourd'hui comment ces notions peuvent paraître à certains rétrogrades, mais on voit comment le fruit que l'on récolte dans la société est bien triste à voir. Alors, c'est pas le sujet, mais ce mot Eros, il n'est pas là. Par contre, il y a un autre mot pour amour qui est le mot philéo. Et l'amour philéo, c'est l'amour de camaraderie, c'est l'amitié profonde qu'on peut éprouver les uns pour les autres. On aime être avec quelqu'un parce qu'on fait des choses ensemble, parce qu'on se reconnaît dans les valeurs de l'autre, parce qu'on est heureux d'être ensemble. Pour dire, on pourrait dire l'amour storgé, le premier dont on a parlé, je t'aime parce qu'on est dans la même famille. Et puis il y a l'amour Eros, c'est plutôt je t'aime pour ce que tu peux me donner. Il est très égoïste, l'amour érotique, l'amour Eros. S'il n'est pas tempéré par l'influence de Christ et cet amour dont on va parler. L'amour philéo, l'amour de camaraderie, c'est « j'aime être avec toi pour ce qu'on peut faire ensemble ». C'est une très bonne chose. Et puis ce dernier mot qui est utilisé pour parler de l'amour que Dieu a pour les hommes, c'est l'amour, vous avez peut-être entendu parler de ce mot, c'est l'amour agapé. En français, on a hérité du mot « agape », qui désigne les repas qui se passaient après les cultes dans les églises. Et ce soir, il y a peut-être des gens qui, sans aucune référence à l'évangile, à la Bible, vont dire qu'ils vont faire des agapes dans la famille. C'est l'amour qui est venu d'ailleurs, c'est pas un amour naturel chez les hommes, c'est l'amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, l'amour qui n'attend rien en retour de l'autre. C'est un amour décrété par celui qui le donne. Et donc on ne peut rien faire pour mériter cet amour. La seule chose qu'on puisse faire, c'est le choix de l'accepter ou de le refuser. Mais cet amour, il est là. Dieu a tant aimé le monde, et ça, c'est la nature de son amour. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier, qui attend rien en retour de nous-mêmes. Et pour exprimer cet amour, il nous a fait ce cadeau incroyable. Il a donné son Fils unique. Et là, il y a une allusion, je ne sais pas si vous avez des connaissances bibliques, au sacrifice qu'Abraham a, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Il y avait dû avoir un miracle pour qu'à un âge avancé, Abraham et Sarah aient un enfant. Et Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son enfant. Ce n'était pas logique du tout, c'était incompréhensible. Mais Abraham avait une foi telle qu'il se disait, si Dieu me demande ça, ça paraît fou, ça paraît ridicule, mais il doit avoir un plan. Peut-être qu'il va ressusciter cet enfant. Et ça, c'était une préfiguration dans l'Ancien Testament du sacrifice que Dieu a fait en offrant son propre fils. Ça demandait un amour surdimensionné. Je ne sais pas si vous avez des enfants, vous espérez peut-être en avoir, mais si quelqu'un vous demande de sacrifier votre enfant pour le bien-être de quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr que je serais prêt à le faire. Je peux même vous assurer que je résisterai de toutes mes forces. Et pourtant, Dieu a offert son Fils en sacrifice. Il nous a donné ce don à Noël. C'est ce qu'on célèbre, le don de Jésus. Parce que le petit bébé, il y a une petite crèche sur le côté là-bas, il est tout mignon, tout beau, tout plein, il y a des jolies lumières, des éclairages et tout. Mais cet enfant, il est destiné à grandir pour être sacrifié le jour de Pâques. Derrière Noël se profile la croix de Pâques. Et puis, la chose merveilleuse, c'est qu'il y a une résurrection, la même que Abraham se demandait si ce n'était pas le secret de Dieu pour lui demander une telle chose. La résurrection, Jésus s'est offert en sacrifice. Il a donné son Fils unique. Alors là, certains disent, mais c'est bizarre s'il a donné son Fils et qu'il y a eu un moment où il a commencé. Dieu, en trois personnes de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu s'est incarné à Noël. On célèbre cette incarnation à Noël, même si on pense que c'était plutôt au printemps et que l'Église a repris une tradition, des fêtes traditionnelles qui existaient à l'époque et qui avaient affaire au fait que on était descendu de plus en plus dans l'obscurité, les jours raccourcissaient et puis d'un seul coup, le 21 au solstice d'hiver, les jours commençaient à rallonger. Ah, il y a de l'espoir. Il y avait la lumière qui venait. C'était le soleil invaincu. C'était cette fête et l'Église a dit, en fait, Jésus-Christ, il est cette lumière qui a brillé dans l'obscurité. Il est l'espoir qui a une vie qui revient. Il y a un espoir d'un monde meilleur où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de souffrance. Et donc, il a donné son fils. Ça, c'est l'expression. Les bénéficiaires de cet amour, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Donc, c'est une offre très, très large. On ne peut pas faire une offre plus large que ça. Quiconque. N'importe qui, toi qui es bouddhiste, toi qui es communiste, toi qui es athée, toi qui es protestant, toi qui es catholique, toi qui as une origine musulmane, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit en lui. Et quelque part, c'est pas difficile de croire. Certains vous disent, toi c'est bien, tu crois, mais moi je crois pas. La Bible nous dit que la foi, de croire, ça vient en apprenant ce qui est dit dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Moi-même, je me retrouve à être pasteur, à vous enseigner ces choses, mais il n'y a pas si longtemps, une trentaine d'années, j'étais un incroyant. J'avais été élevé catholique, mais j'avais laissé tomber la foi. Et pour moi, il y avait que le hasard, il n'y avait que... Je m'étais laissé convaincre qu'on était un accident cosmique, qu'on était là par hasard. Et c'est tellement ridicule de penser ça, quand on commence à vivre et à avoir la richesse de la vie, des échanges qu'on peut avoir avec les autres, quand on voit les merveilles de la création, comment on voit que notre corps est capable de se battre contre des maladies, c'est prodigieux. Et penser que tout ça s'est arrivé par hasard, quelqu'un disait, c'est penser qu'un A380 est né parce qu'une tornade est passée dans un chantier et que les pièces se sont mises en place et il y avait un avion qui était prêt à décoller. C'est ridicule. Et c'est la même chose. La foi demande moins d'efforts que de penser que nous sommes le résultat du hasard cosmique. Croire, c'est simplement, c'est pas avoir une pensée intellectuelle de dire oui, je pense que il y a des théories mathématiques qui sont difficiles, mais je pense qu'il y a des gens qui les ont vérifiées, donc j'y crois. Non, ça veut dire personnellement faire confiance à quelqu'un, croire. Croire en une chaise, c'est pas de dire je pense qu'elle peut me supporter. Croire en une chaise, c'est s'asseoir dessus et de vérifier qu'elle soutient mon poids. Croire en Christ, c'est pas de penser qu'il y a, oui, il y a eu un petit Jésus qui est né, il y a des religions qui... C'est personnellement de lui faire confiance, de lui dire je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis dans la maladie, je viens de perdre un être cher, mais je compte sur toi pour me soutenir, pour m'aider. C'est dépendre de quelqu'un. Lorsque vous dépendez de quelqu'un, ben vous doutez pas. L'important, c'est de dépendre de quelqu'un qui soit digne de cette confiance. L'intention de Dieu, ce verset nous la déclare, c'est que on ne périsse point. Alors le mot périr, c'est un mot un peu daté maintenant, qu'on ne soit pas détruit. La Bible annonce clairement qu'il va y avoir un temps où soit on sera avec Dieu, soit on sera loin de lui. Et c'est la question de l'enfer qui est un lieu réel, qui nous dit que si on n'est pas avec Dieu, on va être en enfer. Et que c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu d'obscurité pour l'éternité. Dieu veut par le cadeau qu'il nous fait à Noël, si nous mettons en confiance, si nous recevons ce cadeau en confiance et que nous mettons au bénéfice de ce cadeau, à ce moment-là, nous allons avoir la vie éternelle. Ça nous parle de la durée de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a bien des amours qui se terminent rapidement. Des gens qui sont amoureux, mais au bout d'un an ou deux, ben, on est habitué à la personne, il y a plus. On décide de changer parce qu'on aimait bien les émotions du départ. Mais l'amour, il persévère, et l'amour de Dieu, il persévère pour toujours. Alors, c'est un cadeau. On a un sapin, on n'a pas mis de cadeau, mais souvent, ce qui est triste, des fois, c'est de voir un sapin de Noël, après la fête de Noël, et de réaliser que derrière le sapin, il est resté une ou deux boîtes. Un ou deux cadeaux emballés, mais que les gens ont oublié de déballer. Quelqu'un vous a aimé au point de donner quelque chose, mais vous n'avez pas reçu. Si c'est vous qui avez offert le cadeau et que le cadeau n'est même pas ouvert, comment vous vous sentez? Vous avez mis de l'énergie. On dit que on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Et Dieu nous a fait ce cadeau parce qu'il nous aime. Mais ça, c'est la merveille de l'amour de Dieu. Dieu, l'autorité toute puissante, a tant aimé le monde, ça c'est la motivation la plus forte qui puisse être, qu'il a donné son Fils unique, ça c'est le plus grand des cadeaux qu'il pouvait vous faire. Vous dites, non, moi j'aurais préféré un iPhone 7, ou j'aurais préféré une Lamborghini. Non, il vous a fait le plus beau des cadeaux qui puisse être. Pour que quiconque l'accueille le plus large, l'offre la plus large, c'est mieux que le contrat de confiance d'Arty, c'est mieux que toutes les publicités que vous pouvez entendre, l'accueil le plus large. Quiconque croit en lui, la chose la plus facile à faire. Vous pouvez décider de croire. Vous pouvez décider de croire ce soir. ne périssent pas. C'est la délivrance de Dieu. On est sous le coup, nos péchés, le péché est entré dans la race humaine, nous explique la Bible, et le péché mérite la mort. Mais Jésus-Christ est venu prendre la place qui me revenait à ma place. Et c'est lui qui est mort sur la croix. Et puis, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, une possession inestimable. Il y a des moments où vous vous sentez bien et vous dites « Ah, si seulement ça pouvait durer pour toujours. » Généralement, ce n'est pas dans la chaise du dentiste, dans le fauteuil du dentiste qu'on dit ça. C'est au bord d'une plage, c'est avec les gens qu'on aime. C'est une fête de Noël, c'est « Ah, si seulement on pouvait arrêter le temps. » Il y a un prophète français qui avait un très beau poème qui disait « Ô temps, suspends ton vol. » Avec Dieu, on est en dehors du temps pour l'éternité. Mais encore une fois, il vous faut recevoir ou non ce cadeau. On va prier et je vais vous inviter. Après, on va prendre la Sainte Cène qui nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ. Mais on va prier et pendant qu'on se recueille, je vais vous donner l'occasion de recevoir ce cadeau si vous ne l'avez jamais fait encore. Ok ? On va prier. Seigneur, merci pour ce verset qui résume de façon si magistrale, si puissante, si explosive, le message total de la Bible, Seigneur. Un message qu'on ne trouve nulle part ailleurs, Seigneur. Parce qu'il vient de toi et qu'il vient de ton amour, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, pour cet amour incroyable. On veut te remercier d'avoir sacrifié ce que tu avais de plus précieux pour nous l'offrir et nous permettre d'être pardonnés de nos péchés, d'avoir la vie éternelle. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous sommes tellement habitués à ce message d'un amour suprême qu'il ne nous aimait plus beaucoup, qu'il ne nous motive pas dans notre vie quotidienne. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur. Et si parmi vous, il y en a qui ont à cœur de recevoir ce cadeau qu'ils ont peut-être négligé, dont ils ont peut-être entendu parler déjà. Vous pouvez le faire simplement en priant en silence, une prière du genre « Seigneur, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur, une pécheuse, que je fais des choses qui sont mal, je pense des choses qui sont mauvaises, je ne fais pas des choses qui seraient bonnes. Je ne pense pas des bonnes pensées qui te glorifieraient. Seigneur, je te demande pardon. Et Seigneur, ce soir, je veux recevoir le don de Jésus-Christ dans ma vie. Tu nous as offert ton Fils. Tu nous as donné ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, qui lui a vécu une vie parfaite. Il est mort sans attendre rien en retour de notre part, par amour pour nous, parce que tu l'avais inspiré. Et Seigneur, ce soir, je veux dire à Jésus-Christ que je lui ouvre la porte de mon cœur, qu'il peut venir vivre en moi et me transformer. Seigneur, aide-moi à me détourner de mes péchés, de mes mauvaises voies, et à me tourner vers toi. Aide-moi à faire ce qu'on appelle la repentance. Seigneur, je crois à ta parole, je crois que ce qui a été dit ce soir, c'est la vérité, et il y a plein d'endroits dans le monde, il y a des milliards d'individus qui te célèbrent, Seigneur. On parle moins d'eux que certains autres groupes, parce qu'il n'y a pas de violence. Il y en a eu dans le passé, c'était toujours pas selon ta volonté. Mais tu es un Dieu d'amour qui veut nous remplir d'amour et nous offrir ton amour en Jésus-Christ. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Amen.